Chapitre 3. Avant de quitter Aumont, Madame d'Arlancey a visité ma châtellenie dans tous ses recoins. C'est une longue maison, sans prétention, sans élégance, et ressemblant, chevron pour chevron, à un presbytère normand un peu grand. Madame d'Arlancey protestait à chaque pas contre la simplicité de mes arrière-arrière-grands-parents. « C'est à ne pas y croire, me disait-elle. Ce cadre ne répond pas du tout à l'aspect plutôt raffiné des personnages dont tu m'as montré les miniatures. » « Pourquoi donc? Moi, je les ai souvent vus ici, répondis-je, et tout s'harmonise dans mon imagination. D'ailleurs, ils n'étaient pas riches. Mais il y a longtemps que cette propriété est dans la famille. Elle a été acquise en 1627. Depuis ce temps, je ne crois pas que ces caves aient vu ruisseler des tonneaux d'or. Ta mère avait de la fortune, et je ne m'explique pas qu'elle n'ait pas ajouté une aile ou deux à ce bâtiment. » Mon père tenait beaucoup à conserver la maison telle que vous la voyez. Pendant ces explications, mon cousin m'observait d'un air sérieux. Autant que j'en pus juger, son caractère est assez enjoué et sa jeunesse se manifeste par des éclats assez amusants, surtout quand il cause avec sa mère. Mais lorsqu'il me regarde et songe, sans doute, au devoir sérieux que mon existence lui impose, il prend l'air qu'il doit avoir en dessinant le plan d'un pont ou le tracé compliqué d'un chemin de fer. Il m'observe, mais s'il savait combien il est observé lui-même, s'il connaissait les réflexions importantes qui se classent dans mon cerveau, il s'évanouirait d'étonnement. Seulement, croit-il à l'existence de ce cerveau? L'avenue a trouvé grâce aux yeux de ma tante. Trois rangs de vieux peupliers, la plante de chaque côté. Elle est vraiment magnifique. C'est la seule chose qui donne un air à ta propriété, Jacqueline. » C'était le soir. Madame d'Arlancey, au bras de son fils, s'aventurait jusqu'à l'extrémité de l'avenue. Avec ses cheveux blancs, sa distinction, son élégance, elle paraissait un portrait vivant descendu de son cadre pour errer au milieu des êtres que j'aimais, au milieu du murmure doux et incessant des feuilles, dans le silence universel. Appel poétique qui convie l'âme à s'unir aux voix éloquentes de la nature, mystérieuse harmonie que j'écoutais toujours avec ravissement, dont, chaque année, je suivais avec passion la composition si variée et si profonde. « Cette avenue a beaucoup de valeur, » dit mon cousin. « Elle est splendide, n'est-ce pas ? » dis-je enchanté. « Très belle, vraiment. On en retirerait une somme considérable. » ajouta-t-il en mesurant du regard la hauteur fantastique des peupliers. « Quoi ? Vendre mes arbres, mes amis, vendre la beauté, la poésie de mon domaine, détruire la mélodie captivante de ces feuilles qui chantent et ressemblent, en outre, à des milliers de facettes quand le soleil les éclaire. » Ma véhémence surprit mon cousin et le fit sourire. « Il n'en est pas question, vous le savez bien. Je m'amusais à calculer. » « Des mathématiques, c'est bien le moment. » Ma tante me donna un petit coup d'éventail sur le bras. « Allons, allons, pourquoi t'emporter si vite? Nous admirons comme toi ces beaux arbres, mais ta maison, ajouta-t-elle avec indignation, ressemble à un presbytère. » « Un presbytère, soit. Moi, j'aime mon presbytère, j'aime le jardin à fruits, les prairies, le verger, tout blanc au printemps. » Toutefois, il était inutile d'expliquer mes impressions à Madame d'Arlancey avec l'espoir de les lui faire partager. La campagne est pour elle un composé de mystères terrifiants. « Jacqueline, qu'est-ce que les grands-parents sont devenus dans cette habitation? Je suis concernée en pensant à leur vie. »« Oh, moi, je ne suis pas concernée du tout. » »« Et quel mobilier! Il est plus que simple !» Elle est émouvante, cette simplicité qui suffisait à des gens dont les facultés s'identifiaient avec les nôtres. Leur mentalité était différente, observa mon cousin avec la sagesse qui le caractérise. Vous n'en savez rien, car les uns ont habité Paris avec des fonctions publiques, mais revenus dans ce pays, ils se sont contentés de leur lait mobilier et de leurs propriétés. Le soir, je dis à mademoiselle, « Je me marierai le plus vite possible. »« Et pourquoi cela ?»« Mon tuteur est idiot. »« Que dites-vous là, ma chérie ? Lui, sorti le premier de l'école polytechnique, lui, dont l'avenir sera exceptionnellement brillant ?» Mettons que, comme spécialiste, il soit extraordinaire, mais je le trouve exécrable et je me marierai au plus tôt pour le fuir au plus vite. » Nous quittâmes Aumont par un temps superbe, assez rare dans nos parages normands. En regardant la maison diminuer, s'éloigner, disparaître, un sentiment profondément mélancolique s'abattit sur moi. Je voyais s'enfoncer définitivement dans le passé ceux que j'aimais, ils n'étaient plus vivants, ils prenaient les teintes poussiéreuses des silhouettes plus anciennes que je faisais revivre en errant seule dans ma maison. Oh, tristesse! Ils s'effaçaient, s'estompaient dans les lignes de plus en plus indécises que ne connaîtront même pas mes enfants. Qui se soucie de ceux dont la vie a eu la même intensité que notre propre vie dans cette châtellenie rustique? Qui s'intéresse et s'intéressera à l'existence des sieurs et dames du Haumont? Personne, sauf moi qui connais, grâce à un vieil inventaire, le nombre des habits, vestes et culottes de mon trisaïeul et le nombre de robes que possédait sa femme. Le bleu et le jaune étaient les couleurs favorites de la dame et je souriais de connaître ses goûts à une telle distance. « Quelle singulière fille !» s'écria tout à coup ma tante. « Pourquoi souris-tu après avoir eu l'air si triste ?» Je pensais aux robes et aux habits des anciens du Haumont. « Comment ?» « Oui, j'ai retrouvé la liste de leurs garde-robes dans un vieil inventaire. C'est curieux. » « Raconte-moi cela, » dit ma tante, subitement très intéressée. Et nous parlâmes de robes dauphines, de velours à la reine, de sirsaka, de gourgouraud, de soie ventre de biche, de camelot, au grand dédain, sans doute, de mon cousin. Mais déjà ma résolution était prise de parler, d'agir selon ma nature, mon esprit, sans me laisser intimider par sa réprobation extérieure ou rentrée. Ainsi donc, par principe et aussi un peu par bravade, j'insistais sur le vif intérêt qu'offrait le nom d'étoffe, désormais inconnu des marchands. Toutefois, je me gardais de révéler le sentiment qui m'envahissait quand, tenant en quelque sorte dans mes mains ces débris de notre temps, je me disais qu'à notre époque, nos ajustements et nous-mêmes serons un jour contenus tout entiers dans un inventaire poudreux et jauni. Mais, en attendant, nous étions au milieu des fleurs, du printemps, du soleil, de la vie enfin. Nous suivions un chemin monteux et charmant, fortement encaissé entre des talus surmontés d'arbres très feuillus. À travers l'ombre épaisse, des rayons de soleil passaient comme des flèches pour caresser les digitales et les primevères qui fleurissaient au milieu des innombrables plantes dont les talus étaient recouverts. Mes instincts d'artiste s'éveillaient et, en imagination, je composais des tableaux dont l'exécution, comme toujours, eût été bien loin du chef-d'œuvre que la pensée entrevoyait. Il me parut que mes observations, d'ailleurs très contenues, excitaient chez mon cousin je ne sais quelle commisération dédaigneuse qui me piqua vivement. Je tombai aussitôt dans un silence si complet que le contraste fut assez grand pour étonner M. d'Arlancey. « Vous ne parlez plus, Jacqueline ?»«
J'aime beaucoup le silence, » dis-je sèchement.
« Tant pis, vos remarques n'étaient pas banales. » La phrase contenait une pointe de moquerie qui ne pouvait m'échapper. «
Peut-être, répondis-je, offrirait-elle de l'intérêt à un esprit qui saurait les comprendre et m'aiderait à les approfondir. »«
Ah ah, » dit-il en riant gaiement, « l'enfant est une abeille qui pique. » J'étais irritée de m'entendre appeler enfant. « Quoi donc, n'avais-je pas 20 ans? N'avais-je pas mis à profit la force instruction reçue depuis 6 ans? Est-ce que toute mon âme n'était pas vibrante? Est-ce que les impressions extérieures ne se retournaient pas sur moi-même pour nuancer ma nature et la préparer aux événements qui s'imposeront un jour à elle? On peut acquérir la réputation méritée d'un ingénieur remarquable et n'être qu'une bête. Je ne sais trop ce que j'aurais répondu si mon attention n'avait été détournée par un nouvel effroi de Madame d'Arlancey. Au sommet du chemin ombragé, nous avions roulé assez longuement sur un large plateau. Maintenant, nous descendions une côte très raide et nous la descendions trop vite.
« C'est affreux, c'est épouvantable !» disait ma tante en se cachant derrière son éventail.
« Ne craignez rien, » dit mon cousin, « notre cocher et nos chevaux sont sûrs. »
Nous avons l'air d'être suspendus entre ciel et terre, gémit ma tante. Avançons-nous. Sommes-nous bientôt en bas, André ?
Dans un instant. Nous arrivions en effet sans encombre au bas de la côte. Par malheur, un mouvement maladroit du cocher conduisit la voiture dans le fossé. La secousse fut assez forte, mais le danger était nul, car un grand talus tapissé de fleurs, comme celui du joli chemin, retenait la voiture. Ma tante avait poussé un faible cri, fermé les yeux et croisé les mains, avec une stoïque résignation. « Ma chère mère, vous n'avez aucun mal ?» s'écria André.
« Je ne sens rien !» dit-elle dolamment.
« Regardez autour de vous, tout danger est passé. »
« Nous devons être brisés sans nous en douter, » reprit ma tante, qui continuait à tenir les yeux hermétiquement fermés.
« Mais non, mère chérie, c'est plutôt comique, et il faudrait descendre pour que nous puissions sortir la voiture du fossé. » Alors, Madame d'Arlancé s'aventura à ouvrir les yeux.
« Et Jacqueline, chère enfant, où est-elle » dit-elle avec effroi.
J'aimais déjà beaucoup ma tante, mais de ce moment, je l'aimais 100 fois plus, car cet oubli complet d'elle-même pour penser à moi me pénétra de reconnaissance. Quelle différence entre une femme et un homme ! Madame d'Arlancé avait le cœur assez grand pour penser, en même temps, à sa nièce et à son fils. Un paquet dégringolé sur le grand chemin eut, en cette occasion, offert plus d'intérêt à André que le sort de sa pupille. Quand la voiture s'était accotée au talus, j'avais vivement sauté sur la route et, perdu dans mes réflexions, je contemplais l'affection de mon cousin pour sa mère. Cet instant a été décisif pour mon esprit, ou plutôt pour mon cœur. Jusque-là, j'avais pensé d'une façon générale et assez vague à mon bonheur futur. Or, pendant que la voiture était dans le fossé, que ma tante, les yeux fermés, l'attitude résignée, se laissait embrasser et calmer par son fils, la vie m'apparut telle que je la voudrais, avec une tendresse infinie, pour m'envelopper et me soutenir. Mon impression fut si vive, mon désir si intense, que des larmes coulèrent sur mes joues. Depuis, j'ai compris que cette émotion racontait un peu la privation de tendresse des 6 années précédentes. Cependant, André se tourna vers moi.
« Vous n'êtes pas blessée, Jacqueline ?»«
Pas le moins du monde. »«
Vous pleurez ? Pour si peu ?»«
Tu vois bien qu'elle a eu peur, pauvre petite !» dit ma tante en me prenant dans ses bras comme si j'étais un pauvre être très faible. Ils étaient à 100 lieues des sensations qui m'agitaient. J'essuyai mes yeux, impatienté que le docteur ingénieur eût aperçu mes larmes, qui coulaient d'ailleurs malgré moi, et je m'assis, avec ma tante, au milieu des fleurs champêtres, pendant que le cocher, jurant, tempêtant, s'efforçait, aidé par André, de remettre la voiture sur ses pieds, c'est-à-dire sur ses roues. 20 minutes après, nous repartions, et malgré cet incident, nous arrivâmes à temps pour prendre le train. Je m'enfouis dans un coin, et, feignant de dormir, je rêvais de tendresse partagée. Je m'attendris en pensant à Madame d'Arlancé, dévouée, affectueuse, oublieuse de ses propres terreurs, pour calmer une émotion dont la source lui était si complètement inconnue.